Oh ben, il me reste que 3 lettres, mais je vois pas ce que je peux faire avec.
C'est quoi tes lettres?
J-A-T.
Je sais. Agité du local.
Pour qui allez-vous voter le 9 juin? Pour quelle liste? Pour quel projet impliquant l'avenir de l'Europe? Car c'est de ça dont il s'agit. Vous ne voterez pas pour une personnalité, pour une prestance, mais un programme. Des directives qui auront un impact sur l'avenir, le vôtre, et à plus grande échelle, celui des 27 États membres. Pour cette occasion, Radio Fidélité et l'autre radio s'associent pour couvrir ces élections et vous proposer des entretiens avec les différents représentants de chaque liste ayant accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous écouterons Marion Déter, représentante locale du parti LFI et figurant sur la liste de l'Union Populaire pour les Européennes. L'entretien sera suivi d'une capsule sonore réalisée avec la Maison de l'Europe pour nous aider à mieux comprendre chaque jour le fonctionnement du Parlement et ce qui y est discuté ou voté actuellement. Je ne suis pas seule pour cette émission, je suis évidemment avec Lucie. Bonjour à toi Lucie.
Bonjour Margot.
On te retrouve tout à l'heure pour l'actu en bref et pour le point météo. Et puis on continuera l'émission en se rendant à Château-Gontier, juste avant l'inauguration de Gontier-Rama, la Biennale d'art contemporain qui commence ce samedi et se terminera le 25 août. L'occasion de découvrir ce que peut être l'art contemporain au travers des créations de 6 artistes différents, mais également redécouvrir la ville et son patrimoine. On terminera ensemble avec notre chronique du jour, celle de l'UFC Que Choisir de la Mayenne et Jean-Michel Guinaudot. Bienvenue amis auditeurs dans l'AJT du local et on commence tout de suite avec l'entretien d'aujourd'hui. Bonjour Marion Déter, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, mais merci pour cette invitation.
Les élections européennes auront lieu le 9 juin. En collaboration avec Radio Fidélité, nous recevons à notre micro tous les partis candidats ayant répondu à notre invitation. Vous figurez-vous sur la liste de l'Union Populaire menée par Manon Aubry. Et donc j'ai envie de commencer peut-être cet entretien par peut-être un bilan de l'Union Populaire des 5 dernières années écoulées au Parlement.
Le bilan de l'Union Populaire, c'est du coup Manon Aubry qui est coprésidente du groupe au Parlement européen. Donc c'est le seul groupe déjà qui a voté contre tous les accords de libre-échange qui sont passés au Parlement européen. C'est aussi le seul groupe qui refuse le retour des règles d'austérité et anti-service public. Et c'est le groupe qui a combattu la poursuite du marché de l'électricité européen. C'est aussi un groupe qui a obtenu des victoires comme le statut social des travailleurs ubérisés qui a été porté pendant 5 ans par la LHIB. Il a aussi fait adopter un amendement pour un cessez-le-feu à Gaza très récemment. Il a imposé une augmentation du SMIC au niveau européen et il a aussi gagné 60 milliards pour lutter contre la précarité énergétique. Ce sont quelques mesures parmi d'autres. Et pour finir, Manon Aubry, elle a déposé 3460 amendements pendant tout son mandat. Pendant que M. Bardella en a déposé 21.
Peut-être quelles sont les principales priorités de l'Union Populaire pour les 5 prochaines années?
Alors, les principales priorités, donc on a axé cette campagne autour de 15 combats pour l'Europe. Donc, je ne vais pas vous détailler les 15 combats parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais moi, j'en ai sélectionné 4 qui me tiennent particulièrement plus à cœur. Donc il y a déjà lutté contre l'austérité qui a été imposée par l'Union européenne. Donc il y a une règle complètement absurde que les pays européens n'ont pas le droit de dépenser 3% du PIB. Et ce qui amène du coup Bruno Le Maire et Emmanuel Macron à nous imposer des coupes budgétaires de 10 milliards cette année et 20 milliards l'année prochaine, alors qu'on n'en a pas réellement besoin. 10 milliards, c'est par exemple 1 milliard en moins sur la rénovation énergétique. C'est, je vais vous dire, entre 100 et 150 000 logements qui ne seront pas rénovés. Ça fait à peu près l'équivalent de la taille de la ville de Rennes. Ça peut être aussi, c'est aussi 690 millions en moins pour l'enseignement scolaire. Donc c'est l'équivalent de 2620 postes d'enseignants en moins dans le premier degré, 1740 dans le second degré, 1760 dans le privé. Et ce sera aussi 14 000 élèves en situation de handicap qui seront non accompagnés. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin non plus parce qu'il y a d'autres mesures, mais c'est pour donner une petite idée. Alors les autres mesures que j'ai sélectionnées, moi, c'est bien sûr la baisse du prix de l'électricité parce qu'il a augmenté de 45% en 2 ans. Donc on veut revenir à un pôle public de l'énergie pour pouvoir encadrer les marges des fournisseurs d'électricité et pouvoir revenir à un tarif plus abordable pour chaque citoyenne et citoyen. On a aussi bien sûr garantir une rémunération digne à nos agriculteurs en imposant des prix planchers et surtout une clause de sauvegarde à la concurrence déloyale par rapport aux pays étrangers qui n'ont pas du tout les mêmes règles, notamment au niveau des pesticides qu'ils emploient. Donc, ce qui crée forcément une concurrence déloyale. Et puis pour finir, donc la quatrième mesure, c'est un cessez-le-feu à Gaza, parce que la Cour internationale de justice a alerté dès le mois de janvier sur un risque génocidaire. Pour autant, on ne veut pas arrêter la livraison d'armes à Israël. Enfin, le gouvernement français ne veut pas arrêter la livraison d'armes à Israël. Et il est urgent, parce que là, on voit bien qu'avec les frappes sur Rafah dernièrement, ça amplifie encore ce risque génocidaire. Et je pense que ce n'est même plus un risque, en fait, il faut se rendre à l'évidence. Enfin, il y a un génocide qui se passe aux yeux du monde entier. Et le gouvernement français, comme d'autres gouvernements qui livrent ces armes, sont complices de ce génocide. En livrant ces armes, ils se rendent complices de ce génocide.
D'accord, donc effectivement, j'allais vous poser la question de comment vous envisagez la position de l'Europe sur la scène internationale avec les conflits actuels, mais là déjà vous avez pu nous en dire quelques mots. J'aimerais peut-être parler maintenant du changement climatique, un grand débat déjà qui était un des enjeux importants des dernières élections. Quelles initiatives spécifiques votre parti soutiendrait-il au niveau européen, en quelques mots ?
Alors au niveau européen, déjà ça serait la sortie des pesticides, refuser les pesticides. Ensuite, il y a également passer au 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050, donc, enfin, voilà, en se faisant bien entendu de manière progressive et sur un glissement. Et en fait, ce sont nos deux principales mesures sur l'écologie à apporter qui déjà, je pense, apporteront pas mal de souffle à notre planète.
Si l'on parle maintenant justement plutôt économie, quels sont vos plans pour soutenir l'économie européenne, en particulier dans les secteurs les plus touchés par la crise actuelle ?
Alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'agriculture, c'est garantir des prix planchers. Après, au niveau économique, c'est un peu notre cheval de bataille depuis plusieurs années déjà. Maintenant, c'est aller taxer les super profits, voilà, aller chercher les multimilliardaires et puis les faire participer à l'effort collectif pour aller aider les plus précaires, les entreprises en difficulté, à se sortir de cette mauvaise passe qu'il y a actuellement.
Quel est votre avis donc sur l'état actuel de la démocratie au sein de l'Union européenne ? Votre parti souhaite-t-il s'engager pour la renforcer ?
Nous, notre parti souhaite toujours s'engager pour renforcer la démocratie. Après, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'on veut s'opposer à la co-gestion de la Commission européenne par la droite et les socialistes et les macronistes. On veut plutôt d'avoir un maximum de représentativité pour qu'effectivement chaque opinion puisse être prise en charge, prise en compte, et pour avoir une démocratie beaucoup plus large et plus représentative.
Est-ce que on voit justement une montée de l'extrême droite dans différents États européens ? Qu'est-ce que vous ressentez face à ça, forcément ?
Alors nous, on ressent un vrai danger parce qu'effectivement, on voit dans différents États européens, mais on peut le voir aussi en Mayenne, avec des groupuscules qui ont été créés il n'y a pas très longtemps, qui ne sont pas très vieux, mais qui sont relativement actifs. Nous, on se veut être le barrage contre l'extrême droite. On luttera contre l'extrême droite. On n'en veut pas chez nous. Et même avec toutes les intimidations qu'on peut recevoir, on ne se taira pas.
La pandémie du Covid-19 a mis en évidence justement plusieurs défis au sein de l'Union européenne. Quelles leçons vous en tirez ? Quelle stratégie proposez-vous peut-être pour une meilleure préparation à l'avenir sur ce type de situation ?
Alors déjà, renforcer tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, arrêter qu'ils ferment, parce qu'on voit encore que Sanofi va supprimer des postes sur la recherche sur les cancers. Donc, c'est juste dramatique qu'on en arrive là après une crise Covid. Et c'est réussir à ramener de la production en France au niveau des médicaments, au niveau des masques, et réussir en France et en Europe, et réussir à être plus autonome et pas devoir compter sur les pays qui sont à l'autre bout du monde et qui, forcément, en cas de crise, commencent par se servir eux-mêmes. Et c'est compréhensible, en fait.
Quel rôle l'Union européenne devrait-elle jouer dans la lutte contre le terrorisme, si vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
Alors, contre la lutte contre le terrorisme, déjà, les services de renseignement travaillent ensemble. Donc, ça serait renforcer les partenariats des services de renseignement européens, voire international. Et moi, je pense que c'est pas en fermant les frontières qu'on va limiter le terrorisme. Le terrorisme ne vient pas des gens qui ne vient pas des migrants, en fait. Le terrorisme, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, venant de n'importe quelle personne.
Merci Marion Détet. Je le rappelle, vous représentez la liste de l'Union populaire pour les élections européennes, une liste menée par Manon Aubry.
Merci à vous.
À l'approche des élections européennes, la Maison de l'Europe en Mayenne nous offre une série de capsules rappelant différents points importants, nous permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de l'Union européenne, les différents champs d'action du Parlement européen et nous explique différentes mesures récentes.
Aujourd'hui, Françoise Marchand, coprésidente à la Maison de l'Europe en Mayenne, nous parle d'asile et de migration.
Les députés européens se sont prononcés mercredi 10 avril sur le pacte Asile et Migration qui vise à réformer de fond en comble la politique migratoire européenne. Ce nouveau pacte marque une réforme profonde des règles européennes en matière de gestion des demandes d'asile et de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Il est l'aboutissement de débats et désaccords intenses entre pays membres, mais aussi entre le Conseil de l'Union européenne qui représente les États et le Parlement européen. Ce pacte consiste en 9 textes de loi interdépendants qui ont fait l'objet d'intenses négociations. Et il a été adopté le 14 mai, donc très récemment. Les arrivées irrégulières dans l'Union européenne ont considérablement diminué depuis le pic de la crise migratoire en 2015, où on pouvait comptabiliser 1 million d'arrivées irrégulières. En 2023, ce ne sont plus que 380 000 personnes qui seraient arrivées de manière irrégulière sur le territoire de l'Union européenne, qui compte tout de même 450 millions de citoyens. 150 000 seraient arrivées par l'Italie. 1 million de demandes d'asile ont été enregistrées selon les chiffres officiels de la Commission européenne. Parmi les nombreuses mesures prévues dans le pacte, un mécanisme de solidarité doit répondre aux désaccords profonds qui animent les gouvernements européens sur la question de la répartition des réfugiés entre les 27. Concrètement, les États frontaliers qui subissent des pressions migratoires pourront invoquer une clause de solidarité par le biais de laquelle une partie des réfugiés qu'ils ont accueillis pourrait alors être relocalisée dans d'autres pays européens. Si ces derniers refusent de prendre en charge les nouveaux arrivés, alors ils devront soutenir les pays frontaliers financièrement pour le développement de nouvelles structures qui pourront accueillir les réfugiés. Le pacte prévoit également un système de filtrage des demandeurs d'asile lors de leur arrivée aux frontières européennes, filtrage qui doit établir en l'espace de 7 jours si une personne peut bénéficier de l'aide ou non. Le pacte est le résultat d'une longue négociation suivie d'un compromis. Toutefois, tout le monde ne voit pas le pacte comme une amélioration. Des députés ont annoncé voter contre pour dénoncer un manque d'humanité en contradiction avec la consigne de vote de leur groupe. Et les ONG n'ont eu de cesse d'alerter contre un paquet législatif qui reflétera les échecs du passé et aggravera leurs conséquences. Une lettre ouverte de 50 ONG est parue en décembre dernier. Le plus grand défi de ce pacte est sa mise en œuvre dans les 2 prochaines années. Tout d'abord, une vigilance à exercer sur la mise en œuvre des mesures relatives au respect du droit des enfants, alors que les nouvelles lois incluent l'enregistrement des demandeurs d'asile âgés de plus de 6 ans dans la base de données européenne, dont leurs empreintes digitales et leur image faciale. Un autre point est la construction de centres aux frontières pour accueillir, filtrer, héberger les demandeurs d'asile, ainsi qu'à la mise en place d'une vaste stratégie de recrutement du personnel. Un autre point est l'élaboration des programmes avec des pays tiers pour rapatrier les personnes déboutées du droit d'asile et obtenir des fonds dans le prochain budget septennal européen. L'Union européenne a-t-elle manqué l'occasion de se mettre d'accord sur un meilleur partage des responsabilités et des mécanismes de solidarité? Elle s'est mise d'accord sur une augmentation du nombre de détentions, y compris d'enfants et de familles, dans des centres ressemblant à des prisons. Reste désormais à négocier cette mise en œuvre technique des grands principes et surtout à donner les moyens financiers et humains pour créer un véritable contrôle digne des frontières européennes. Pour le moment, les pays en première ligne sont régulièrement accusés de pratiquer des refoulements pourtant déjà illégaux selon le droit européen actuel. Et la Hongrie, dirigée par le populiste Viktor Orbán, a déjà dit qu'il rejetait l'accord trouvé. Les ONG dénoncent un recul du droit d'asile en Europe. Les ONG craignent surtout que les migrants soient désormais parqués en détention dans des centres de rétention, y compris des familles avec enfants sans capacité de se défendre face à l'administration qui traitera leur dossier. S'il y a bien un droit pour les migrants de bénéficier d'une assistance juridique, il n'y a pas assez de personnel pour les accompagner et il faudra bien sûr s'appuyer sur les ONG pour vérifier que la gestion sur le terrain soit bien plus qu'humaine.
L'agité du local continue dans quelques instants. Avant ça, une pause musicale. Lucie, tu as un chouette son à nous proposer.
Et oui, aujourd'hui, je fais des folies. J'ai eu envie de vous faire découvrir un sous-genre du rock progressif. Il s'agit du mat rock. En quelques mots, ça se caractérise surtout par des rythmes très atypiques, des accords poussés. Mais promis, c'est pas inécoutable. Pour vous faire une idée, je vous propose d'aller en Californie et d'écouter le groupe Shaun et leur titre Pitch Dark. Thank you. Allez, on commence ces brefs par un petit retour en arrière de quelques jours. Le 16 mai dernier, lors du conseil municipal, les communes de Bonchamp-lès-Laval et de Changé ont décidé de continuer leur coopération en matière de police municipale. La convention pour la mise en commun des agents et des équipements entre les deux communes a donc été renouvelée à travers par exemple les missions de sécurité, de salubrité, de sûreté et de tranquillité, de contrôle, etc. Avant de partir dans le sud à Laval, l'association Laval Images propose une exposition intitulée « Nos adhérents ont du talent ». Vous pourrez y voir une sélection de 94 photos prises par les adhérentes et adhérents de l'association. Et pour admirer tout ça, ce sera rendez-vous au 40 rue Britain à Laval du 27 mai au 8 juin, pendant les heures d'ouverture au public habituel. Toujours à Laval avant de partir, cette fois ça se passe ce vendredi 24 mai et c'est 39 des collégiens et lycéens de tout le département qui vont participer à la finale du concours d'éloquence organisé par le Contrat Ville de l'agglomération lavalloise, l'Éducation nationale et le Conseil départemental d'accès aux droits de la Mayenne ou CDAD53. Pour cette grande finale, ils devront choisir parmi l'une des 5 thématiques qui sont les discriminations, l'engagement citoyen, les droits humains, le dérèglement climatique et ses conséquences sociales ou bien les grands procès. Bonne nouvelle, c'est possible d'aller les écouter et ce sera donc vendredi 24 mai à l'Hôtel de Ville de Laval à partir de 9h pour les collégiens et à partir de 13h30 pour les lycéens avec des résultats programmés à 17h et c'est ouvert à tous. Côté météo, on a commencé la journée avec des éclaircies et quelques rayons de soleil. D'accord, ils étaient un peu timides, mais ils étaient là quand même. Et cet après-midi, les éclaircies devraient continuer de nous accompagner, malgré quelques pluies éparses par-ci par-là, comme à Ernée ou Cran par exemple. Le tout avec 18-19 degrés en moyenne. Et ce soir, par contre, c'est averse orageuse pour tout le monde, et plutôt 14-15 degrés. Pas de favoritisme donc. D'ailleurs, Nirjal se dit que ce serait sympa si la prof pourrait en prendre un peu de la graine et arrêter de prendre tout le monde, sauf son petit préféré. C'est vrai quoi? Pourquoi c'est pas tout le monde à la même enseigne? Ok, Ethan, il est fort en anglais, mais il parle tout le temps pendant le cours.
Lucie, j'entends ton implication, mais est-ce qu'on peut revenir à la météo?
Ah oui, pardon. Donc, cette nuit et demain, il fera nuageux avec entre 11 et 13 degrés. Et l'après-midi, c'est le retour des averses orageuses partout sur le territoire, malgré les 17-18 degrés. Attention à celles et ceux d'entre vous qui sont dans le nord du département demain soir. Il y aura des risques d'orage à Goron et Mayenne, notamment, et tout le sud du territoire aura des averses orageuses et on l'espère, quelques éclaircies devraient persister dans la soirée vers Ernée par exemple. On croise les doigts pour que ce beau soleil gagne tout le reste du département après ça.
L'art contemporain au cœur de la ville, c'est ce que propose Gontier Rama qui commence ce samedi 25 mai et qui s'étendra jusqu'au 25 août. Un parcours artistique, une occasion de redécouvrir la ville de Château-Gontier, seul, en famille, pour 2 heures ou même 4 heures, c'est vous qui décidez. On écoute Bertrand Godot, directeur de la programmation art contemporain du Carré et commissaire de Gontier Rama, ainsi que Florence Arnay, responsable du service patrimoine pour le pays de Château-Gontier et responsable du musée d'art à Château-Gontier.
Alors Gontier-Rama, c'est un parcours d'œuvres et d'artistes dans la ville de Château-Gontier, de la ville basse à la ville haute, en traversant la rivière qui fait comme une frontière naturelle. C'est un parcours dans les sites de patrimoine et de culture, comme la médiathèque, le musée, l'office du tourisme, etc., le carré. Chapelle Saint-Julien cette année à l'hôpital.
En effet, c'est une volonté de rayonnement, on va dire, artistique et touristique pour le pays de Château-Gontier au travers de ce parcours d'artistes dans la ville qui s'adresse bien évidemment au public local. Il y a les fidèles de Gontier-Rama, mais ça attire également un public bien au-delà du département et aussi de la région des Pays de la Loire. Donc c'est pour nous, touristiquement, intéressant de pouvoir faire rayonner le pays de Château-Gontier au travers de cet événement d'art contemporain.
C'est l'art contemporain qui va vers les habitants, finalement.
C'est exactement ça. Comme le disait Bertrand, c'est vrai qu'on présente des artistes dans des différents lieux culturels de la ville, mais également en extérieur, donc avec une grande accessibilité. Et même les lieux culturels tels que le musée ou le 4 bis, ici au sein du pôle culturel des Ursulines, tout est gratuit. Donc c'est vrai que ça donne une facilité d'accéder à ces artistes, à leurs propositions qui est en direction de tous les publics et notamment le public familial.
L'inauguration, c'est samedi 25 mai, ce sera en compagnie du super band The Green Line Matching Band pour une déambulation débridée plutôt rock dans Château-Gontier. Deux rendez-vous vous sont proposés, 16h30 au parvis de la salle des fêtes et 19h15 place de la République.
C'est la liberté de chacun de découvrir ce parcours comme il le souhaite, dans le temps qu'il le souhaite. Alors, on a un petit dépliant avec le plan de la ville où sont présentées toutes les œuvres de Gontierama. On a également un petit dépliant jeu, donc ça permet aux enfants avec leurs parents de faire le parcours, mais d'une manière ludique, amusante. On a différentes propositions pour ceux qui ne veulent pas faire trop de marche à pied. Eh ben, on peut aussi découvrir le parcours Gontierama avec le petit train touristique. Donc, on a deux sorties avec le petit train touristique qui sont proposées le dimanche 9 juin et le dimanche 7 juillet. Tout au long de l'été aussi, on va proposer différents ateliers du patrimoine pour les 6-12 ans. Donc, pour découvrir justement différents artistes.
Et oui, pour être accompagné dans la découverte de chaque artiste, des rendez-vous vous sont proposés dans cette programmation. L'autre radio sera également présente le 15 et le 16 juin pour vous former et découvrir les étapes de réalisation d'une émission radio. Mais revenons aux artistes. Ils seront 6 à exposer leurs œuvres dans différents lieux de Château-Gontier. Elsa Tomkoviak vient de Douarnenez, mais a effectué une résidence artistique de territoire tout au long de la saison à Château-Gontier. Écoutez.
La résidence, elle s'est vraiment concentrée sur un partenariat avec l'hôpital de Château-Gontier, où on a pu mener des ateliers de pratique, en tout cas, moi je dis plutôt d'échanges artistiques, où j'avais très envie de partager ma façon de travailler, notamment en ce qui concerne le travail avec la couleur, la peinture et la mousse. J'ai plusieurs propositions qui tournent autour là, de cette rencontre du matériau mousse et de la peinture. C'est une pratique très jubilatoire et un peu régressive où on patouille, mais en même temps on se rend compte du pouvoir de la couleur. C'était hyper intéressant de travailler ces matériaux, aussi bien avec des patients de l'hôpital psychiatrique, mais aussi bien du personnel, donc soignant, mais aussi personnel de l'hôpital. Le personnel du carré, en fait, j'avais envie de mélanger les divers publics. On a fait aussi ce même atelier avec l'IME de Château-Gontier, un public très varié pour un même atelier, même pratique. Et tout ça est visible dans l'hôpital. Alors, pas tout n'est pas accessible au public, mais la plupart sont accessibles au public. Donc, c'était le point de départ de mon immersion à Château-Gontier. Et au fur et à mesure du temps, j'ai imaginé des œuvres pour Gontierama. Alors, j'y vais parce qu'au départ, c'était une. Et puis finalement, petit à petit, à force d'être sur place, voilà, j'ai commencé, parce que je suis un peu gourmande, à m'immiscer dans divers espaces. Depuis le début dans ma pratique, moi j'ai une peinture que je qualifie de peintre, mais une peintre qui a quitté clairement la question de la toile. Donc j'ai commencé à m'intéresser à voilà, dans cette idée d'expansion qui m'imprègne, à investir les espaces, donc aussi bien les espaces construits que les espaces naturels, patrimoniaux, architecturaux, enfin bref, des espaces très variés, et à m'en servir comme support de création. Donc souvent c'est la rencontre d'un lieu, d'un espace et de ma façon de peindre. Et donc voilà, dans ma façon de peindre, effectivement, la couleur est centrale. Je m'intéresse terriblement à la façon dont la couleur bascule, se transforme en une autre. Donc je suis dans une question du dégradé. Donc voilà, parfois ce dégradé, je le réalise à pleine main, donc du coup dans la mousse ou à coup de balai. Quand il s'agit de peindre des grandes surfaces, voilà, parce que des fois ça peut prendre des formes monumentales. Voilà, mais je suis dans cette fascination du point de bascule entre chaque nuance, quoi. Et plus j'avance et plus je multiplie les nuances et voilà, et les rencontres entre la couleur qui est forcément en interaction avec la lumière.
L'art n'est pas seulement un objet divertissant, l'art est une manière unique d'introduire de la surprise et de la joie dans nos existences, parfois empêchées par une santé fragile ou un monde rude. C'est ce que dit Eva Proutot, critique d'art. Eh bien, du 25 mai au 25 août, l'art contemporain vient justement se nicher dans Château-Gontier. Il ne vous reste plus qu'à aller à sa rencontre.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Nous voilà arrivés au moment de la chronique du jour, les bons conseils, les bonnes astuces du consommateur. Ça se passe avec l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
La chronique du UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudeau.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, vous voulez aujourd'hui revenir sur votre chronique entendue il y a quelques semaines sur la réparabilité des produits et les aides de l'État pour nous y inciter. Y a-t-il du nouveau ?
Ben oui et non. L'aide de l'État pour promouvoir la réparation plutôt que le remplacement par l'achat d'un appareil neuf existe toujours. Mais un nouvel indice, appelé indice de durabilité, vient remplacer l'indice de réparabilité. C'est en application d'une loi de 2020 qu'un décret et plusieurs arrêtés du 5 avril 2024 précisent les critères de notation de ce nouvel indice qui prend en compte de nombreux facteurs dont la réparabilité. Et vous me suivez ?
Donc tous les appareils sont concernés ?
Petit à petit, des arrêtés définiront les critères d'attribution par appareil ou type d'appareil. Et les arrêtés du 5 avril concernent les appareils électriques et électroniques, les téléviseurs, les lave-linges ménagers. Les autres types de produits suivront, dont les aspirateurs, les tondeuses à gazon électrique, etc.
Alors comment saura-t-on la note attribuée ?
Le fabricant devra indiquer la note globalement obtenue dans un pictogramme dont la couleur ira du rouge sombre, pour les plus mauvaises notes, au vert pour les meilleures. Ce pictogramme, en magasin, devra avoir la même taille que le prix et s'il figure sur l'emballage, il devra être visible. Le fabricant devra aussi mettre à disposition du public la note obtenue pour chaque critère. Et c'est là que peut résider un problème pour le consommateur. Quel critère privilégier ? Par exemple, pour un lave-linge, est-ce la réparabilité qui prend en compte des éléments comme la période de mise à disposition des pièces détachées, la possibilité de démonter facilement ou non, la mise à disposition des instructions de réparation ? Et faut-il privilégier le remplacement de la porte ou des balais du moteur. Pour la fiabilité, il est tenu compte du nombre de cycles ayant fait l'objet des tests de solidité. Moins de 1400, soit 9 ans à raison de 3 lavages par semaine, ou plus de 3400, soit, pour la même fréquence, 21 ans, ou également 9 ans à raison d'une lessive par jour. Comme souvent, c'est le prix qui va déterminer l'acte d'achat. Plusieurs magazines, dont Que Choisir, propose des comparateurs avec le critère qualité-prix en donnant même des éléments de préférence ou d'usage. Par exemple, pour un téléviseur, est-ce la qualité de l'image, le son, etc. Attention, pour l'achat, le vendeur n'est souvent pas très objectif dans ses conseils. Il a été démontré que le choix est orienté vers certains modèles pour la prime qu'il touchera ou les objectifs de vente qui lui ont été fixés par sa direction. L'indice de durabilité va permettre un choix raisonné du consommateur et, espérons-le, amener les fabricants à orienter leur mode de fabrication vers du plus solide, du plus réparable et moins vers le moindre coût de production, comme le Nutri-Score amène les industriels de l'agroalimentaire à revoir leurs recettes.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ces informations qui nous guident dans nos achats. Si l'on souhaite une aide pour un litige avec un artisan, un commerce, une banque ou tout autre professionnel, pouvez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir ou notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel ou tout simplement nous proposer vos services. Pour animer les réunions d'information sur ces sujets de consommation, nous recherchons des bénévoles pouvant y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci Jean-Michel. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marion Détet de la liste de l'Union Populaire de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Françoise Marchand. Merci à Jean-Michel Guinaudeau et merci à toi, Lucie. Nous sommes mercredi et le milieu de semaine sonne musical sur nos ondes.
Et oui, puisqu'on commence la soirée avec Novorama pour les nouveautés indie rock, pop électro. Et ça commence à 19h.
Ensuite, c'est The Voice of Cassandre.
À 20h avec des playlists et mixtapes de différents artistes.
Et pour terminer, c'est Déclectic Jazz.
Et ça commence à 21h aujourd'hui. Aujourd'hui, l'invité est Frédéric Gauthier, rédacteur en chef de Jazz Magazine pour les 70 ans du mensuel.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous continuerons nos entretiens dans le cadre des élections européennes et nous serons avec Maëlle Ranou de la liste Les Écologistes. D'ici là, eh bien, faites-le bien.
Tu sais, Mimi, quand je commence l'Agité du local, j'aimerais que ça s'arrête jamais.